côté, on pourrait dire que rien n'est moins étonnant que ce refoulement de la politique dans le discours et les transports. Si on suit ici la réflexion sur le passage propre au moderne d'une philosophie à l'autre, que l'on a senti et a dernièrement proposé, il devient clair que l'émergence d'un concept nouveau, celui de société, oblige les modernes à infléchir en orientation de leur pensée philosophique et partant à transformer leur pensée philosophique de ou de la politique. L'absence d'une pensée de la politique, et notamment de l'État, comme institution la plus noble et la plus puissante de la sphère politique du monde selon Hegel, serait donc une conséquence logique de la découverte du concept de société et bien au-delà du concept de la réalité effective de cette entité. Adorno lui-même constate cela dans la dialectique négative, je cite, « L'humanité a de toute façon découvert la société bien plus tardivement que l'État, qui, alors qu'il est en soi quelque chose de médiatisé, paraît aux yeux des dominés comme quelque chose d'immédiat, comme en fait donné. » Suivant ces réflexions, il aurait été même anachronique si l'école de Francfort avait, à ses débuts, essayé de réfléchir le réel dans les cadres classiques de la philosophie politique, et ces cadres incluent évidemment la catégorie d'État. À partir du moment où on a compris l'existence de la société, on ne peut de fait plus réfléchir sur l'institution politique de cette réalité sans prendre en compte le fait qu'elle existe sinon avant, du moins en même temps que l'agir politique sur et en elle. Un indice qui confirmerait cette hypothèse selon laquelle les anciennes catégories furent abandonnées par les penseurs de la première génération est certainement l'émergence de nouvelles catégories pour penser l'organisation de la vie commune, comme la catégorie de classe ou de parti. Et ceux-là sont certainement des catégories qui apparaissent de fait dans la première théorie critique, mais dont le caractère politique reste, du moins à leurs yeux, approuvé. On pourrait donc dire que le fait que la société devienne une réalité pour la philosophie l'a bien contrainte à changer de cadre théorique et partant à abandonner le paradigme politique comme cri de lecture de la société et de la réalité. Or, le fait de prendre en compte dans une réflexion théorique l'existence de la société ne semble pas a priori rendre impossible l'étude de cette entité dans une perspective également politique. Autrement dit, il paraît que rien ne nous empêche de dire que la société est politique, du moins en partie. Reste donc à savoir si la première école de Francfort a tout simplement éludé cette possibilité, et si ce n'est pas le cas, il faut poser la question de savoir où elle loge la politique dans sa théorie de la société. C'est uniquement à partir de là qu'on pourra expliciter pourquoi les générations d'après ont cru pouvoir choisir une option théorique combinant théorie de la société et théorie politique, sans plus percevoir ce mariage comme quelque chose de problématique. J'en viens donc à l'histoire du concept justement d'État dans l'école de Francfort. C'est une discussion qui a lieu dans les années 40, donc je me concentre vraiment sur les textes exprimant tout cette école et qui précède en fait la dialectique de la raison. Si on regarde cette histoire, on se rend compte que je viens de commettre des raccourcis presque inadmissibles, car s'il est vrai qu'il n'y a pas de pensée l'État chez Adorno, et ça c'est vrai, il parle rarement de l'État, il n'a vraiment pas de théorie de l'État, ce n'est pas tout à fait vrai pour les autres penseurs de l'école Francfort, notamment pour les penseurs périphériques comme Pollock ou Neumann, mais aussi pour Horkheimer. D'ailleurs, dans la mesure où Katia est là, je peux tout de suite convier à son livre, Autorité et émancipation, qui est quand même en grande partie, du moins pour ce qui concerne, je pense, la partie politique de la pensée de l'école Francfort, consacrée à ces penseurs dits périphériques, parce qu'ils n'ont pas eu de postérité après dans l'école Francfort. Donc cette période où l'État devient un sujet de réflexion théorique, elle est vraiment très courte, elle va du milieu ou de la fin des années 30 jusqu'au début des années 40, avec pour son apogée l'année 1942, et tous les textes dont je vais parler sont de fait écrits en 1942, ce qui tient les conjonctures historiques dont je ne vais pas parler ici. Mais ça signifie aussi, c'est pour ça que je fais cette remarque, que je ne vais pas parler du texte de Benjamin sur la violence, ni de raison et révolution du marxisme, parce que ça sort de ce cadre-là. alors que les deux textes peuvent être interprétés comme des textes politiques, en fait. Donc, pendant cette année 42 et juste avant, donc, l'école de Francfort essaye d'élaborer une théorie capable d'expliquer les fascismes, et notamment le nazisme allemand, ce qui n'est pas très étonnant. Et dans ses réflexions, le concept d'État joue un certain rôle, sans pour autant être élaboré par ces textes. Ce texte-là reprenne d'abord à leur compte le concept d'État de la théorie marxiste. Et le rapport théorique nouveau se trouve dans les inflexions qu'ils imposent à ce concept marxiste et l'État. L'État de la théorie marxiste est évidemment un autre État que celui de Hegel. Et c'est excellent qu'on vient d'entendre Louis sur Hegel, parce que comme ça, vous voyez très bien que l'opposition que je vais ouvrir, mais je vais quand même ouvrir pour aller droit au problème et un peu également raccourci, parce qu'elle ne prend pas en compte les finesses de la théorie de l'État chez Marx, ni chez Lénine, Korch ou Gramsci, mais elle me permet en effet de montrer immédiatement où est le point de discorde, le moment de discorde entre Marx et Hegel. Si donc l'État dont la pensée politique pré-marxiste est notamment hegelien, et le concept pour dessiner le lieu de l'agir commun, il s'est transformé dans la pensée marxienne en une fonction de la société, qui, quant à elle, est devenue le véritable lieu de ce même agir commun. Ce qui signifie, vu la conception hegelienne de la société comme société civile bourgeoise, et Marx prend, fait sienne cette définition de la société, que c'était se remet dans la sphère privée, donc la société civile bourgeoise, que l'agir commun est censé avoir lieu, naturellement, et non dans la sphère publique. L'État perd chez Marx la place noble qui lui revenait chez Hegel. Il n'est plus la réalité effective d'un ordre rationnel dans lequel les hommes peuvent se reconnaître en tant qu'êtres libres et dans lequel leur agir en fonction de la rationalité de l'État est donc agir libre. Dans la pensée de Marx, il prend une autre place, celle du monopole de violence, souvent traduite en droit, que la classe capitaliste s'est appropriée à sa part. Il se peut par ailleurs que c'est la langue allemande qui ait favorisé ce déplacement de la signification du terme d'État, puisqu'elle dispose de deux termes pour désigner l'État. D'un côté, du terme Staatswesen, parce qu'il est la vie éthique, simplement la République, l'ordre politique, une société, la vie en commun. Ceci devient Platon si on songe au simple fait que la République de Platon en français est évidemment traduite par la République, en allemand est traduite par der Staat. Donc c'est vraiment la vie éthique, sa totalité, comme tu viens de l'écrire pour Hegel. De l'autre côté, le Staat, l'État en allemand, peut également dessiner tout simplement ce qu'Althusser va appeler l'appareil répressif de l'État, ou l'appareil d'État, l'étatique, la police, les impôts, le militaire, le gouvernement. Et ainsi, le terme « État » en allemand permet d'être interprété dans les deux sens. Dans le sens de l'ordre politique, et c'est ainsi que Hegel l'a mis en avant, et dans le sens d'appareil d'État, ce qui est le choix de Marx pour parler l'État. Si l'État est donc pour Hegel un lieu de synthèse réelle, effective et rationnelle des antagonismes de la réalité sociale de la société civile bourgeoise, il est pour Marx le lieu d'une synthèse violente de ces antagonismes. Dans l'État, les contradictions ne se trouvent pas réconciliées, mais ceux qui possèdent l'État ont le pouvoir d'imposer leur version de la résolution des antagonismes sociaux. Et ils ont le pouvoir de faire cela de manière violente, précisément parce que l'État est avant tout un appareil répressif, et non le lieu de l'égalité des citoyens, permettant à des hommes inégaux, en tant que personnes privées, d'effectuer leur égale citoyenneté dans la détermination rationnelle des fins de l'ordre public. L'État, aux yeux de Marx, n'est ni la nation, ni la République, mais une sorte de coquille vide, uniquement déterminée par sa capacité à exercer une forme de violence extrême, contre laquelle toute défense devient coûteuse. L'école de Francfort reprend son compte cette définition de l'État comme fonction de la société. Après, les réflexions sur l'État prennent des directions différentes. Il y a quatre auteurs, dont moi je vais faire état, sans mauvais jeu de mots, Pollock, Horkheimer, Neumann et Adorno. Je vais essayer de les présenter rapidement en commençant par Pollock et son article de référence « Le capitalisme d'État ». Ce texte est communément considéré comme un tournant vers la politique au sein de l'évolution de l'école Francfort. Alors que la théorie marxiste orthodoxe a préféré une approche économique du pouvoir, mettant en équivalence exploitation et domination, Pollock aurait introduit une véritable inflexion politique dans ce schéma en conférant un rôle central à l'État qui désormais se préoccuperait davantage de la domination que de l'exploitation. Cet État-là a tendance à devenir totalitaire. Pollock, dans son article sur le capitalisme d'État, fait subir deux inflexions majeures à la théorie marxiste de l'État. Premièrement, l'État, selon lui, n'est plus simplement le lieu où la classe dominante impose sa synthèse violente des antagonismes des classes, et ceci en fonction de ses intérêts purement économiques, guidés par la logique du profit, mais il est devenu un acteur autonome au sein de la société civile bourgeoise. L'État, nous dit Pollock, je cite, exerce désormais des fonctions importantes qui incombent auparavant aux capitalistes privés. Fin de la citation. Autrement dit, la position verticale ou transcendante que l'État occupe non seulement dans les théories politiques classiques, comme chez Hegel aussi, mais également encore au sein de la théorie marxiste, au sens où il était pour elle aussi un lieu de synthèse, cette fonction transcendante lui est déniée. Il se trouve désormais au même niveau que les autres acteurs de la société civile bourgeoise. Deuxièmement, l'État est capitaliste, c'est-à-dire la finalité est son agir et le profit. Le capitalisme d'État n'est pas un socialisme. L'adversaire de la théorie de Pollock est une autre approche, plus marxiste si on veut, qui essaye d'expliquer le tournant totalitaire du système capitaliste. qui se voulait également libéral au niveau politique, par le terme capitalisme monopolistique. Pour les défenseurs de la thèse du capitalisme monopolistique, l'État est entre les mains des grands monopoles, des cartels ou des trusts. Ces derniers ont réussi à s'emparer de cette fonction de la société. Donc, c'est une théorie marxiste tout à fait traditionnelle. Il en va autrement de la conception de Pollock. Ici, l'État lui-même est le monopoliste. La différence entre les deux approches peut sembler minime, au sens où l'une et l'autre s'appuient communément sur deux thèses. Premièrement, que le capitalisme libéral de concurrence a disparu, et deuxièmement, que ce n'est par conséquent plus le marché qui règle le rapport entre production et distribution ou consommation. Ceci admis, on s'aperçoit que la pomme de discorde entre les deux approches est simplement la question de savoir qui occupe dorénavant la fonction qui échouait dans un capitalisme libéral au marché. Pour Pollock, cette fonction échoue à l'État. Pour les adeptes de la théorie du capitalisme monopolistique, ce sont les monopoles, donc les êtres privés. Pour un signifiant qu'elle puisse paraître ces différences et de taille, tout simplement parce que l'introduction de l'État permet à Pollock d'évoquer du moins la possibilité que cette fonction consistant à trouver un équilibre entre la production et la distribution pourrait être remplie de manière démocratique. Cette possibilité, de fait, ne peut pas être envisagée par les défenseurs de la théorie du capitalisme monopolistique, en fait, un monopole ne va jamais être quelque chose de démocratique. Mais ce n'est pas seulement le désir d'ouvrir la perspective sur une planification démocratique de la vie économique et sociale qui motive l'introduction de l'État comme acteur autonome. Pollock avance un argument structurel qui obligerait l'État à devenir le seul capitaliste et le tire du développement du capitalisme lui-même. Ce dernier, de par ses progrès techniques et sa tendance à la surproduction, produit de plus en plus de chômeurs, plus ou moins de la populace, que l'État doit entretenir. Enfin, de juguler cette masse de la population, l'État doit, à un moment donné, se poser comme capitaliste et planifier seule la vie économique. Ainsi, il lui sera permis d'affecter les gens à la production, de réguler la distribution, de fixer le prix, etc. Ces choix-là sont des choix politiques, nous dit Pollock, et non purement économiques. Ils ont pour but de maintenir l'ordre social, non nécessairement d'augmenter les bénéfices. Aussi, le souci central de l'État, en tant que capitaliste, sera-t-il de mettre au travail le chômeur. Mais quand l'État, dont la théorie colloque, reste malgré tout capitaliste, c'est-à-dire orienté vers le profit, il doit nécessairement continuer à faire fonctionner le levier de l'exploitation. La mise au travail des gens sera donc violente, la régulation de la distribution ne le sera pas moins. Voilà pourquoi l'État du capitalisme d'État passe avec une telle facilité au totalitarisme. Je crois qu'il faut retenir de cette analyse essentiellement que l'État n'est plus une fonction neutre de la société civile bourgeoise, mais qu'il a désormais un intérêt propre, et que cet intérêt est un intérêt capitaliste. En ce sens, il ne peut plus être un objet que les classes de la société se disputent, mais c'est l'adversaire contre lequel il faudrait lutter. Cette lutte-là pourrait être dite politique, sauf que Pollock lui-même ne parle pas de politique à ce niveau-là. Lui, il prétend enrichir la théorie critique d'un volet politique en montrant que l'État prend d'autres décisions que des décisions motivées par l'intérêt de profit. Or, l'État, au moment où il devient un adversaire dans la lutte des particuliers, se comporte exactement comme un acteur privé. Il a un intérêt à défendre, et restant capitaliste, cet intérêt est un intérêt privé. Il peut certes prendre des décisions politiques au sens où certaines de ces décisions peuvent aller à contre-courant d'une pure rationalité économique. Il se comporte toutefois comme un acteur privé qui poursuit ses intérêts particuliers. La domination est donc la conséquence de cette la domination comme logique de l'État semble donc être la conséquence de cette privatisation de l'État, c'est-à-dire qu'elle est au fond un comportement privé. Le concept de la politique qu'on trouve ici est par conséquent un peu curieux. Est appelé politique tout agir orienté par une pensée stratégique qui vise en dernière instance la domination la plus complète de l'autre, dans le cas de l'État, de sa propre population. On peut dire la même chose du concept de pouvoir politique impliqué dans la théorie de Pollock. Si pour Weber, par exemple, je pense que la théorie de Weber est quand même à l'arrière-plan de ses réflexions de la théorie critique, la première école de Francfort. Donc si pour Weber, tout pouvoir politique a besoin d'être reconnu pour fonctionner, le passage à la domination comme mode opératoire du pouvoir semble réduire le comportement des sujets soumis au pouvoir, soit à de l'obéissance, sans aucune reconnaissance de l'État ou du pouvoir, soit à une simple forme de reconnaissance du monde. Et les chômeurs ou les gens qu'on domine, les dominés en effet, reconnaissent l'État au sens où c'est l'État qui les nourrit. Un concept de pouvoir politique un peu restreint. Je vais essayer dans un dernier temps de cet exposé de montrer qu'Adorno a bien vu cette contradiction dans le terme politique et qu'il a exclu, par conséquent, le politique de sa théorie de la société capitaliste. Retenons jusqu'ici un point. Si la dialectique, la raison abandonne, et cela est évident, le paradigme économique au moment où elle essaie d'expliquer l'avènement d'une nouvelle forme de barbarie, et si elle remplace le terme d'exploitation par celui de domination, ceci est certes conduit au colloque, et le livre n'est pas pour rien dédié à Colloque. Or, il faut se demander si cette reprise du terme de domination a été faite dans la perspective proposée par Pollock, c'est-à-dire dans une perspective politique. À lire la dialectique de la raison, on a plutôt l'impression que la domination n'est pas un problème politique, mais un problème social. La société est structurée par des rapports de domination tant qu'elle n'est pas société politique, et ceci signifie pour Arkhamin à Adorno une société émancipée. Avant d'en venir à ces questions plutôt épineuses, je vais très brièvement reconstruire l'analyse de l'État autoritaire par Horkheimer et puis présenter la version de la position sur l'État de Neumann. Notons d'entrée de jeu que le texte de Horkheimer, qui est légèrement confus, ne devient lisible que par rapport au texte Pollock, à mon sens. Je peux comprendre le texte que si j'ai le texte Pollock à côté. Horkheimer reprend d'abord à son compte l'analyse de Pollock, actant la fin du capitalisme concurrentiel et l'accroissement de la masse de ceux qui ne disposent pas de moyens de production. Horkheimer adopte également le constat de Pollock, disant que le progrès technique a mené à la production d'une masse de plus en plus grande de chômeurs. La solution à ce problème est de fait le capitalisme d'État, décrit par Pollock, car il seul peut contenir les rébellions des populations appauvries. Ce que Horkheimer ajoute, et cela c'est évident, à l'analyse de Pollock n'est pas grand-chose, mais toutefois, cela peut sembler central. D'une part, il nie d'emblée la possibilité d'un capitalisme d'État démocratique, ce qui est parfaitement logique à mon sens, parce que si la démocratie est un agir politique commun fixant des règles de comportement rationnel et commun, il est contradictoire d'appeler démocratique un État au sein duquel le résultat de cet agir commun est censé se soumettre à un intérêt particulier qu'est l'intérêt capitaliste de l'État. Jusqu'ici, l'amendement de la théorie de Pollock par Horkheimer semble seulement nécessaire au niveau conceptuel. D'autre part, Horkheimer qualifie l'État du capitalisme d'État comme étant autoritaire, et là où Pollock a appelé la version non démocratique du capitalisme totalitaire. L'adjectif autoritaire n'est pas anodin dans ce contexte, contrairement au terme totalitaire qui, de fait, nous installe d'emblée dans la pensée politique. Il renvoie dans un premier temps à la sphère privée, plus précisément à celle de la famille. L'État autoritaire se comporte de la même manière que l'ancien père, la famille bourgeoise. Il exige la soumission totale, prend seul ses décisions et considère que les membres de la communauté, décidément non politiques, tels les enfants, ne peuvent pas contribuer à l'élaboration de la vie commune. Également pour le développement du concept d'autorité, justement l'ancrage socio-psychologique de ce concept, je ne peux qu'envoyer au livre de Pater qui expose ça très clairement. Parce que ça peut vous sembler bizarre pourquoi je renvoie à l'endroit de la famille et pas justement à un concept politique d'autorité en introduisant le concept d'autorité. Du moins, à ma connaissance de la théorie critique de l'école de Francfort, c'est plutôt le paradigme familial qui prédomine pour expliquer la cohésion sociale que l'autre chose. Donc, c'est pas très étonnant. Disons, si le terme autorité apparaît ici, ça peut sembler renvoyer vraiment à la sphère privée. Donc, en introduisant ce terme d'autorité, il me semble que Horkheimer respecte davantage que Pollock le double sens du concept d'État en allemand. L'État autoritaire est d'agir comme une communauté éthique autoritaire, c'est-à-dire basée sur le principe d'autorité, et l'État comme appareil d'État fonctionne lui-même comme autorité. Et c'est précisément pour cette raison que l'État autoritaire ne semble pas être une entité politique. À y regarder de près, il n'est pas politique en tant que communauté d'agir, puisque précisément aucun agir en commun n'a lieu dans ce genre d'État. Ou bien l'agir qui a lieu n'est pas un agir commun, mais un agir identique de tous ceux qui sont soumis à la même autorité. Et l'État comme appareil, comme lieu de pouvoir, n'est pas politique non plus, puisque c'est un acteur privé, le capitaliste, qu'est l'État et qui est source d'autorité. Horkheimer ajoute ainsi la conception de l'État qui est considérable. Premièrement, le déplacement du totalitaire vers l'autoritaire permet d'apercevoir le caractère volontaire de la soumission. Dire l'État qui est totalitaire, c'est en fait un sujet constituant par des moyens violents une totalité. Nous avons vu qu'il est aisé de confondre cette activité constituante de l'État avec un agir politique, à condition évidemment qu'on restreigne la signification du terme politique à un agir qui vise avant tout la domination. Appeler ce même État autoritaire induit en revanche l'idée qu'il y a un désir d'autorité chez les gouvernés, que la soumission à l'État révèle une logique de servitude volontaire. Deuxièmement, l'introduction du terme d'autorité permet à nouveau de considérer l'État comme communauté politique ou communauté éthique, comme lieu de l'agir commun, et non seulement comme un acteur isolé. Et en dernier lieu, Le terme autoritaire souligne plus clairement le caractère privé de cet acteur qu'est l'État en ce qu'il apparaît de pouvoir. De l'autre côté, ça peut sembler contradictoire, l'État autoritaire semble bien plus politique que l'État totalitaire du Pollock. Horkheimer réintroduit de nouveau une triangulation dans la vie sociale que Pollock avait enlevée. L'État comme autorité se trouve de fait au-dessus de la société civile, alors que l'État comme capitaliste était bien à l'intérieur de la société civile. C'est lui qui synthétise de nouveau les antagonismes, et Horkheimer semble être plus fidèle à Weber en ce point, car la reconnaissance des dominés, l'autorité, dépasse largement une simple reconnaissance du monde. Il y a une véritable identification avec l'autorité, on s'y reconnaît comme les citoyens hegéliens devraient se reconnaître dans l'État. Il se peut, c'est une nouvelle hypothèse sur la dialectique de la raison, que c'est à cause de cette triangulation que le concept d'autorité véhicule qu'il est disparu de la dialectique de la raison. Il ne disparaît pas complètement, mais le concept central est quand même celui de domination. Quand un dominant n'a pas besoin d'être ailleurs au niveau de la société que le dominé pour que la domination fonctionne. Il peut tout à fait y avoir des rapports horizontaux de domination. Et ce concept semble donc plus adéquat pour décrire le tissu de liens horizontaux et sociaux décrit par la dialectique de la raison, alors que le concept d'autorité aurait vraiment introduit le problème de dire qui est l'autorité. Et c'est précisément ce qui disparaît dans la dialectique de la raison. Et passé par là, probablement, le texte de Neumann, qui a bien vu ce problème de la verticalité et qui opte par conséquent pour le concept de domination lui-même, pour éclaircir la structure de la société capitaliste devenue fasciste, ou dans les cas précis de Neumann, national-socialiste. Neumann, c'est lui qui a écrit ce livre, qui fait à peu près 500 pages, qui s'appelle Behemoth, et qui est une présentation socio-économique du national-socialisme, une sorte d'explication de la structure du national-socialisme. Également paru en 42, si je ne m'abuse. Pas de contradiction.
44. Il est écrit en
42.
Oui,
à peu près.
Et puis après.
Pas en 65, c'est le jour. C'est sûr. Donc si on regarde la position de Neumann sur l'État, on se rend compte d'abord qu'il joue tout à fait le rôle du trouble fait, dont la belle unanimité qui règne malgré tout entre Horkheimer et Pollock. Les deux acceptent quand même la notion d'État, ou essayent d'expliquer le fascisme en intégrant l'État. La thèse de Neumann, forte en effet, consiste à dire que l'État fasciste est précisément pas un État, c'est un non-État. L'État national-socialiste, au sens de Staatswesen, donc de communauté quelconque, elle ne s'apprend pas politique, mais de communauté, ne serait pas un État, encore moins un État autoritaire, c'est-à-dire un État où malgré tout, il y aurait encore une source identifiable du pouvoir ou de la coercition, et donc une triangulation des conflits ayant lieu au sein de la société. Cet État-là n'existe pas, cette fonction d'État n'existe pas dans la société nationale-socialiste. Le national-socialisme est une forme de vie commune où la domination fonctionne sans recourir à une quelconque règle.